en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Classique ou contemporaine, l'œuvre ultime dans l'art est imprégnée des derniers instants de l'artiste. La dernière œuvre, c'était le thème de la journée du livre 2010 de l'Académie nationale de médecine, dont Canal Académie retransmet sur son site les meilleurs moments. Dans cette partie, nous vous proposons d'écouter deux interventions. La première est consacrée à Hans Hartung, peintre entré à l'Académie des Beaux-Arts en 1977. Odile Burlereau, historienne de l'art, nous présente les dernières techniques de Hartung pour contrer son handicap physique et poursuivre ses peintures parfois monumentales. Le deuxième portrait est consacré à Willem de Kooning grâce aux interventions croisées de Pierre Vatte, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Provence, ex-Marseille 1, et Joël Ancry, professeur de santé publique et de gériatrie. Il nous donne à interpréter les dernières toiles de l'artiste au regard des difficultés neurologiques grandissantes du peintre Willem de Kooning jusqu'à sa dernière toile. Tout de suite, on retrouve Odile Burlereau sur Hans Hartung.
Je me suis intéressée à Hans Hartung dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Deadline, qui a été présentée l'année dernière au Musée d'art moderne de la ville de Paris. C'était une exposition qui présentait 12 artistes, tous dans les dernières années de leur vie et eux conscients qu'ils allaient mourir. Donc les œuvres qui étaient présentées étaient des œuvres très, très particulières puisqu'elles étaient choisies en fonction de cette conscience de la mort qui vient. Et le premier artiste que nous avions retenu pour cette exposition, c'était Hans Hartung. Et nous voulions d'ailleurs étoffer cette présentation. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir présenter plus précisément le travail des dernières années de Hans Hartung et de revenir sur ces recherches que j'avais effectuées, notamment à la Fondation Hartung qui se trouve à Antibes, qui est un lieu formidable. Et j'avais pu regarder énormément d'œuvres. Vous allez voir... que je vais vous parler de ce travail énorme, puisque dans les trois dernières années de sa vie, il a produit 900 tableaux. Donc on peut voir la première image. Voilà, donc vous voyez ici les racks derrière les deux tableaux qui sont sortis. C'est pour vous dire à quel point la Fondation conserve tous ses travaux, puisque j'ai pu consulter 400 tableaux lorsque je me suis rendue à la Fondation. Et c'est un lieu qui donc la fondation a été installée dans l'atelier et la villa que possédait Hans Hartung. Donc on peut voir l'image de la fondation. C'est dans les champs d'oliviers, au-dessus de la ville d'Antibes. Et ce que vous voyez au fond, c'est l'atelier, c'est pris de la partie villa. Alors, en décembre 86, Hans Hartung a 82 ans et il est victime d'un accident cardiovasculaire. Il est d'abord dans le coma et puis il se retrouve avec une mobilité très réduite, mais quelques mois plus tard, il retourne à l'atelier à partir du mois de mars. Et cette dernière période de sa vie, donc de mars 87 à décembre 89, qui est le moment de sa mort, eh bien c'est une période étonnante puisqu'il est dans une santé très déficiente, mais en même temps dans une euphorie de travail. Et c'est pour un homme de cet âge et de cette santé vraiment très, très extraordinaire de voir ce travail. Alors on vient de le dire, il était très malade et par ailleurs il est en fauteuil roulant parce qu'il avait perdu une jambe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs il était aussi psychologiquement affaibli puisqu'il venait de perdre sa femme, Anna Eva Bergmann, qui était décédée pendant l'été 87. Mais malgré tout, toute son énergie, il la met dans le travail. Tous les jours il va à l'atelier quand il peut et il continue à peindre et il continue à peindre énormément. Il raconte à un journaliste qu'il interview en 1988, « Il y a toujours autre chose à exprimer, on a toujours envie d'aller plus loin. Ce plaisir de peindre, c'est le plaisir de vivre, on ne peut s'arrêter. » Donc je vais d'abord un peu vous décrire le cadre de vie pour que vous compreniez comment il avait organisé lui-même sa vie et son travail. C'est lui-même qui a conçu le lieu où il vit et où il travaille. Il a acheté la propriété d'Antibes en 1967. Il a dessiné les plans parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'architecture. Il a suivi tout le travail de construction. Et ce n'était pas la première fois qu'il concevait son atelier, puisque déjà en 1937, à Minorque, il avait dessiné son atelier, de même qu'à Paris, quelques années plus tard. De même, il était photographe. C'est moins connu. Il a exposé seulement à quelques occasions ses photographies, notamment en 1977. mais toutes ces photos qu'il faisait lui permettaient de revenir sur son travail. Et c'est pour cela que dans cet atelier dont vous voyez la photo, au départ, le ciel était... il n'y avait pas de plafond, on était à ciel ouvert, parce qu'il aimait beaucoup regarder le ciel. Alors il organise également son entourage, c'est-à-dire que les personnes qui sont avec lui l'aident, parce que comme je vous l'ai dit, il avait perdu une jambe, donc il avait d'abord des béquilles, et puis à la fin de sa vie, il était en fauteuil roulant. Du coup, plusieurs personnes vivaient dans la fondation avec lui, une quinzaine de personnes dans les dernières années. Il y avait donc une personne qui était chargée de ses affaires, une cuisinière, une bibliothécaire, des infirmiers qui se relayaient pour le veiller parfois, un kinésithérapeute également. Et les assistants de Hartung pour son travail d'artiste vivaient dans la fondation une semaine sur deux. Il y avait un certain nombre d'assistants et ils étaient très proches de lui. Ils parlent même de télépathie pour expliquer à quel point ils comprenaient son travail et à quel point c'était une complémentarité. Ils sont aussi des confidents en quelque sorte. Il l'aide sur plein de plans parce que son infirmité s'accroît. Et donc, il l'aide, par exemple, pour sa vie quotidienne. Il y avait un assistant qui l'accompagnait parce que tous les jours, il se baignait dans la piscine. On peut voir la photo qui était installée dans la fondation. Alors, parfois, il ne va pas très bien. Et donc, son moral est très lié à ses conditions physiques, bien sûr. Donc, à certains moments, il se renferme dans la solitude. Il a des sautes d'humeur. Parfois, il ne peut plus parler. Mais chaque fois qu'il se sent mieux, c'est à l'atelier qu'il va, et c'est là où il reste. Voici ce que dit un des assistants à propos de son emploi du temps pour une journée de travail. Je vous cite son assistant. Le matin, vers 10h, réveil, petit déjeuner, lecture de journal, discussion concernant ce qu'il faut préparer pour la journée, les couleurs, les formats. On commençait souvent par photographier les tableaux de la veille ou de l'avant-veille, établir les descriptifs pour le catalogage des œuvres, les ranger, puis on préparait les outils. Pendant ce temps, Hartung nageait comme tous les jours dans la piscine. Repas, sieste, puis il téléphonait pour descendre à l'atelier, regarder les tableaux qu'il avait faits le jour avant. Les dernières années, la durée de la séance était aussi conditionnée par la capacité d'encombrement de l'espace de l'atelier et le temps de séchage à plat des toiles. En fait, il aimait peindre le soir, dès la tombée du jour, quand il n'y avait plus de paysage à travers les grandes baies vitrées, quand l'atelier devenait une sorte de bulle intensément éclairé par des batteries fluorescentes. À la fin de sa vie, il était en fauteuil roulant, mais sa faiblesse physique était compensée par une volonté extraordinaire. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a toute sa vie marché avec des béquilles, d'où cette force dans les bras qui lui permettait dans les années 70 de tirer les grandes brosses, par exemple. Voilà, c'est la fin de la citation. Hartung a également une caractéristique quand il travaille, c'est qu'il écoute beaucoup de musique, de la musique baroque, parce qu'il vient d'une famille très mélomane, et lui-même c'est un grand amateur de musique. Et les assistants racontent que le bruit de la peinture qui jaillissait sur la toile était à peine couvert par le bruit de la musique classique. Alors il a aussi mis en place, bien avant sa maladie, des méthodes de travail très précises, des systèmes de classement. Et dès 1949, il commence à enregistrer méthodiquement les titres de ses peintures dans des cahiers d'atelier et des cahiers d'œuvres. Et donc il met un système codifié et organisé. Il engage en 1950, ce qui est très tôt, une bibliothécaire professionnelle, Marie Andera, qui est toujours vivante et qui est une archive vivante à elle-même, qui cataloguera donc son œuvre. Les titres des tableaux sont accompagnés d'un numéro, d'une lettre, et puis qui correspond à une technique, et puis il y a aussi un code secret. Donc on ne peut pas vraiment savoir toujours de quand date vraiment l'œuvre. Donc à la fin de sa vie, il y avait environ 110 classeurs. Vous en voyez quelques-uns sur cette image. Les visiteurs également sont enregistrés, si je puis dire, puisque cette bibliothécaire tenait un journal de ce qui se passait dans la villa et dans l'atelier. Et les amis qui venaient lui rendre visite étaient inscrits. Donc là, vous avez une page de la semaine du 17 au 23 juillet. C'est également la semaine où il fait un très grand tableau, et je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pour ça qu'on s'est écrit la toile de 5 mètres par 3 terminée ce matin. Donc les personnes qui lui rendaient visite étaient répertoriées. Il y avait aussi bien des critiques que des directeurs de musée, son notaire, avec lequel il préparait les statuts de la future fondation. Tous aimaient le visiter dans ce cadre très beau et admiraient ses dernières toiles. Soulages, qui a fêté l'année dernière ses 90 ans, avec une très belle rétrospective au Centre Pompidou, m'a rapporté combien il aimait visiter la fondation, à l'époque l'atelier, et combien il était proche du couple dans cette dernière période. Alors pour l'exposition Deadline, j'avais choisi de montrer une seule journée de travail pour que les visiteurs se rendent bien compte de cet activisme de Hans Hartung. Donc on va regarder ces images de l'accrochage de l'exposition. C'était la journée du 4 juillet 89. Voilà, ça c'était une journée de travail. Et on peut regarder en détail une des toiles. On voit également dans la photo suivante, qui était aussi présentée dans l'exposition, c'est la toute dernière œuvre qu'il a faite, le 18 novembre 89. C'est un format plus petit, plus sombre aussi. Et on présentait également cette toile, là c'est la photo faite à la Fondation, mais d'une toile de 3 mètres par 5. Alors comment travaillait Hans Hartung? Il travaillait essentiellement la nuit, il dormait le matin, ça on l'a déjà entendu, et il aimait beaucoup peindre le soir, parce que le paysage disparaissait et que dans l'atelier c'était comme une coque. Il s'est toujours passionné pour les outils et les matériaux. Il a même fait un inventaire de ses outils. D'ailleurs, quand on visite la fondation aujourd'hui, on peut voir tous ses outils exposés. On peut se rendre compte à quel point il était curieux, ingénieux, de toujours remettre en cause sa manière de travailler et de la développer. Dans les années 60, par exemple, il peignait avec des pistolets pneumatiques, ceux qu'on utilise pour les carrosseries. Puis en 61, il a commencé à faire des grattages dans la peinture encore fraîche. Il utilisera des balais, des peignes, des branches de buissons, des pulvérisateurs. Il se servira même de branches d'olivier dans les années 80-85. Et il utilisera aussi une tyrolienne qui sert normalement pour le crépi des maisons. Mais à la fin, c'est trop lourd et c'est pour cela qu'il améliore encore sa technique. Et à partir de 87, il va utiliser un outil très particulier, c'est la sulfateuse que les jardiniers ou les vignerons connaissent bien puisqu'ils l'utilisent pour pulvériser de l'eau ou de l'herbicide. C'est un bidon en métal muni d'un tuyau et d'une large buse. Souvent, en fait, malgré la maladie, mais peut-être à cause d'elle, certains artistes découvrent une nouvelle manière de travailler. Ils développent une autre conception de leur art. Et c'est vraiment le cas de Hans Hartung. Le temps est compté pour lui, mais cette sulfateuse à vigne, elle lui permet de propulser la peinture comme un souffle sur la toile. C'est une peinture très liquide. Et c'est en fait à l'initiative de Anna Eva Berkman que ce système avait été mis en place par certains de ses assistants pour que, malgré sa faiblesse physique, il puisse continuer à travailler. Donc ça lui permet de diversifier les formats et les couleurs. Il envoie des coulures, des gouttes, des éclaboussures qui forment des taches et des lignes et qui deviennent le langage formel de ses œuvres tardives. Ça lui permet également de donner du rythme et de mieux correspondre à son inspiration du moment. Le hasard également est traité comme une sorte de premier état de la peinture. Il pouvait diffuser des fines gouttelettes, créer des taches plus compactes. Ce sont des giclées de matière avec des coulures. Même s'il est très épuisé physiquement, dans certaines périodes, son corps est fatigué, seul le bras ou le poignet font le geste, et d'une simple pression de la main, il peut actionner l'appareil. Cela lui permet d'observer en même temps le tableau qui se compose sous ses yeux. Parce que vous le verrez tout à l'heure, il y a un temps entre le moment où la peinture est projetée et le moment où elle touche la toile. Et donc, il peut assister comme ça à la composition même de l'œuvre. Et pendant ce temps-là, les assistants lui apportent les couleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin de sa vie, il a peint des toiles de couleurs et de textures qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et c'était cette forme de nouveauté et d'improvisation qui a beaucoup stupéfait les personnes qu'il connaissait depuis longtemps. Il trouve vraiment une joie à travailler. Il a plus de 80 ans et c'est comme s'il repartait à la conquête. Il a une mentalité de pionnier finalement. Il explore à nouveau, il continue. Sa réputation, il n'a plus besoin de la faire, elle est assurée. Mais il prend tous les risques. Et il travaille dans une forme d'urgence. On peut rappeler que sa première exposition avait eu lieu à Paris en 1947 à la galerie Lydia Conti et que depuis, il avait vraiment conquis à la fois la critique, les musées, il avait eu des grandes expositions. En 60, il est à la Biennale de Venise, au pavillon international. Il sera invité en 75 à exposer au Metropolitan Museum à New York. Mais ce qui compte pour lui, c'est justement de toujours se renouveler. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que ses dernières œuvres renvoient à la série d'aquarelles qu'il avait fait quand il avait 20 ans, en 1922, où les couleurs apparaissaient sous forme de taches. Et elles ont servi, ces aquarelles, à développer tout son langage graphique des années suivantes. La dernière année aussi, en 1989, il est allé au musée du Louvre revoir une exposition d'un peintre qu'il aimait beaucoup, c'est Rembrandt. Et ça reprenait aussi ses travaux des années 20. Alors je vous disais qu'il se dépasse non seulement par le nombre d'œuvres produites, 900 en 3 ans, c'est gigantesque, mais aussi par la taille des toiles. Et donc il réalise des très grands formats. Certaines toiles font jusqu'à 3 mètres par 5. Et c'est dès le retour à l'atelier, après son coma, qu'il s'est attaqué à ces grands formats. Voilà ce qu'il dit. « C'est une force, une nouvelle jeunesse qui me sont accordées, et surtout le besoin de faire de grandes toiles. Je me suis persuadée que dans l'art abstrait, la dimension d'un tableau a une importance énorme. » Il est confiant dans les outils qui sont à sa disposition et dans ses capacités, et du coup, il peut produire ses grandes toiles, même s'il est dans un fauteuil roulant. Et il réalise des œuvres libres, colorées, qui sont les plus grandes qu'il ait jamais faites. Il dit encore « Un trait qui traverse une toile de 2 mètres de haut exprime la violence, l'énergie, la force. S'il n'y a que 10 centimètres, il devient sans importance. » Alors il les réalise très rapidement, ces toiles. Vous l'avez compris, quand on voit l'engin qu'il utilise, il lui faut peu de temps. Et cette durée très courte, eh bien, lui permet de réaliser beaucoup de toiles. On a vu tout à l'heure une photo où toutes les toiles étaient étalées au sol. Parce qu'en fait, à partir du moment où il avait réalisé entre 6 et 7 toiles dans la journée, eh bien, comme les toiles devaient sécher au sol, il ne pouvait plus continuer, pour la journée en tout cas. Je voulais d'abord lire un petit extrait du carnet que tenaient les infirmières, pour que vous vous rendiez compte de l'obsession dans laquelle ils se trouvaient également. Elles écrivent chaque soir ou chaque matin ce qui s'est passé dans la nuit, puisque la nuit est un moment pour lui où il vit. Voilà par exemple la nuit du 16 au 17 juillet. Cafardeux ce soir, s'isole derrière ses lunettes noires, tolère une présence discrète, passe une bonne nuit, toilette à 8h45 pendant son sommeil. Légèrement agacé ce matin, je laisse M. Hartung au repos, massage, bain, piscine, dans l'après-midi, fait une grande toile dans l'atelier. Et voilà ce qui se passe dans la nuit et le lendemain matin. Toujours le carnet de l'infirmière. Il se couche assez vite, se redresse du lit un peu plus tard, très angoissé. Veut aller à l'atelier, terminer son tableau de 5 mètres, voudrait faire des grands traits. Veut que Marie le mette en contact avec le directeur de la galerie, toujours à propos de cette grande toile. Je le rassure et lui promets de réveiller tôt le lendemain matin. Donc vous voyez, il se lève en pleine nuit parce qu'il est obsédé par l'idée de continuer, de terminer ce qu'il avait commencé. La bibliothécaire rapporte encore, vers la fin de sa vie, se sentant plus libre qu'il ne l'avait jamais été, Hartung ne vivait plus que pour une chose, peindre. Sachant pertinemment qu'il ne lui restait que peu de temps, il savait ou choisissait ce qui était essentiel pour lui, négligeant tout le reste. Donc en 1987, il produit 85 œuvres, en 1988, 206 et 360 en 89. Et il déclare encore « Le plaisir de vivre se confond en moi avec le plaisir de peindre. Lorsqu'on consacre toute sa vie à la peinture, que l'on cherche à aller toujours plus loin, il est impossible de s'arrêter. » Alors évidemment, les réactions ne sont pas forcément celles qu'on peut penser, parce que l'inventivité, la liberté créatrice, les dimensions de ses dernières œuvres provoquent à la fois l'admiration du fait de son âge et de son handicap, mais aussi des critiques de la part de certains galeristes, par exemple, mais aussi d'historiens, parce que tout le monde ne comprend pas ce qui se passe et certains ont du mal à accepter qu'ils puissent produire une telle quantité d'œuvres qui sont si différentes par leur format et leur style de ce qu'ils faisaient avant. Il y a quelques assistants qui ne comprennent pas non plus et qui le quittent. Et c'est ceux qui sont arrivés plus récemment qui comprennent cette volonté de continuer absolument. Et en fait, il y avait une rumeur qui s'était répandue que son travail, ce n'était pas lui qui le faisait. Du coup, ce film que vous voyez maintenant a été tourné en 1989 dans l'atelier pour répondre à ses suspicions. Donc c'est une vidéo d'amateur qui a été faite. On voit l'artiste en train de peindre. C'est au fond une archive, mais c'est aussi justement utilisé pour contredire les détracteurs. C'est-à-dire qu'il choisit là où il va envoyer la peinture, là où il va la projeter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup, c'était le peintre de la gestuelle, le peintre qui était loin de la toile. Et en fait, on sait très bien maintenant que c'est seulement dans les années 60 que c'était vraiment un artiste qui avait cette spontanéité et cette liberté par rapport à la toile et qu'auparavant, eh bien, il reportait le dessin agrandi sur la toile. Et donc c'est seulement à la fin de sa vie qu'au fond la réputation qu'il avait, elle a vraiment tout son sens. Donc le matin, il avait décidé des couleurs qu'il allait utiliser, et c'est pour ça que l'assistant peut lui apporter les couleurs. C'est un document qui a été peu montré, hein, et qui reste très émouvant, parce que c'est vraiment à travers cette maladie, la vieillesse et même la perspective de la disparition qu'on voit que Hartung est vraiment dans le travail. Il ne s'arrête pas. Il est conscient de la fin annoncée, mais il trouve une intensité, une plénitude, et cela transcende les limites de la vie.
Faire venir un historien de l'art dans une assemblée comme celle-ci, c'est forcément se poser la question de savoir si nous avons des choses à nous dire et si nous avons des choses à nous dire autour de la question de l'œuvre ultime. La question, à mon avis, qui nous réunit ici, c'est-à-dire quand on travaille, ça va être mon cas dans deux minutes, sur l'œuvre ultime de quelqu'un dont on sait qu'on la prononce ou pas, qu'il a une maladie extrêmement grave, toute la question est de savoir si on peut encore regarder l'œuvre comme œuvre ou si l'œuvre est réduite à un symptôme, et à partir du moment où elle est purement réduite à un symptôme, est-ce que moi j'ai encore quelque chose à en dire, ou est-ce que vous n'êtes pas évidemment, enfin que vous soyez plus compétent que moi sur les symptômes, je ne suis pas ici pour le prouver, mais est-ce que moi j'ai encore des choses à en dire. On a essayé de partir un peu de ce postulat-là, et j'ai essayé de tenir d'abord la position de l'historien de l'art, de manière un petit peu provocante, contre la position de la médecine. J'aurais commencé par un retournement qui sera à la fois chronologique et méthodologique. Chronologique parce qu'il est d'usage, généralement, d'appréhender une œuvre dans le sens de son déroulement, du début à la fin. Nombre de monographies en témoignent et d'expositions, et ce sens de lecture qui se prétend neutre, objectif, me semble au contraire tout sauf neutre, et pas forcément, du moins pas toujours précisément éclairant. Parce qu'il suppose ce sens chronologique, après tout, que de présenter une œuvre, j'allais dire, dans l'ordre de son apparition, et du sens de la logique, bref, il suppose après tout que la vie a un sens, ce qui n'est pas encore prouvé, ou du moins au minimum une direction, avec tous les vieux corrélats qu'on retrouve dans la vieille histoire de l'art aussi, d'ailleurs, de formation, d'apogée, et aussi, on vient de le voir, éventuellement de déclin. Après tout, l'idée même qui est structurée l'exposition Deadline, qui organise la journée, de travailler sur l'œuvre ultime, c'est-à-dire d'isoler un moment dans une vie créatrice qui, parce qu'il serait le dernier, aurait une spécificité, procède de ce type de lecture chronologique. Pour de Kooning, ainsi, la lecture serait aisée et pathétique, qui mènerait, pour choisir deux exemples de l'œuvre que je vous projette là, Woman One, une œuvre des plus célèbres, j'ai choisi délibérément, des années 50-52, jusqu'à cette œuvre de 1984, qui est une œuvre sans titre. Autrement dit, il serait facile de partir des œuvres emblématiques du de Kooning, de la maturité, de l'apogée, je ne sais pas comment il faudrait dire, à celui de la fin. Celui de la fin dont on sait, c'est notre sujet, qu'il souffrait d'une maladie neurodégénérative. Alors, lu dans cet ordre, le parcours ne peut pas se lire autrement que sous le vocable de la rupture, de la diminution, de l'effacement. Bref, la fin n'étant qu'une sorte de coda pathétique, et d'ailleurs, à l'époque où ces œuvres, je m'en souviens, ont été montrées, la très grande gêne suscitée par ces œuvres, fut à cet égard extrêmement significative. Dès lors, il n'est pas certain que l'historien de l'art ait grand-chose à dire sur de telles œuvres réduites à n'être que des symptômes. Ce que je voudrais proposer au contraire, très brièvement, dans ce cadre, où avec Joël Ancry, nous nous interrogeons justement sur ce que nous avons à nous dire, c'est une lecture antéchronologique qui parte des œuvres de la fin, et dès lors, peut-être faudrait-il d'ailleurs inventer un autre vocable que celui d'œuvre ultime, ou du moins essayer de lui ôter sa dimension fatalement, si j'ose dire, pathétique, pour aller progressivement vers le début. Pourquoi une telle méthode antéchronologique ? Parce que c'est aussi ce que j'ai pu constater en allant depuis une vingtaine d'années régulièrement dans les ateliers d'artistes. Je ne pouvais pas être là ce matin malheureusement, mais il a la gentillesse d'être encore là. Pierre Buraglio est un des artistes avec lequel j'ai le plus travaillé, que j'ai le plus fréquenté. C'est donc notamment grâce à lui que j'ai appris cela. En atelier, quand on va faire des ateliers, on part toujours de l'œuvre actuelle, qui n'est en général pas supposée, espérons-le, ultime, pour remonter ensuite dans le temps. Et si cela se fait souvent pour des raisons logiques de découverte d'une actualité, puis de contextualisation de celle-ci dans un parcours, l'avoir si souvent fait m'a appris une autre chose, que c'est ainsi seulement, me semble-t-il, que l'on peut mesurer la cohérence d'une œuvre et le lien profond entre le récent et l'ancien, malgré les métamorphoses évidentes de la forme. Eh bien, je postule que si l'on agit de même avec de Kooning, ce que je vais faire très vite, alors les dernières œuvres prennent un tout autre statut et apprennent beaucoup, dès lors, à l'historien de l'art, y compris à celui, l'hypothèse est tout à fait envisageable, qui ne s'intéresserait pas du tout à ces œuvres-là ou qui n'aimerait que les œuvres de la maturité. Donc, repartons de la fin en quelques minutes bien trop rapides. Sans titre, 1984. On a une sensation de vide, ou du moins de domination de la blancheur, blancheur d'autant plus blanche, si l'on peut dire, qu'elle contraste avec quoi ? Avec quelques formes, plus dessinées que peintes, malgré l'usage de la couleur, formes qui, toutes ténues qu'elles sont, et j'insiste là-dessus, ne sont pas moins dynamiques et, le terme vaut ce qu'il vaut, je dirais architectoniques. Plus qu'une simple esquisse laissée visible comme les dessous d'un tableau, c'est plutôt la détermination de lignes de force par lesquelles celui-ci va tenir. Ce qui reste dans ce tableau-là, c'est ce qui tient. C'est ce qui tient le tableau debout d'une certaine manière. Si on commence à remonter en arrière, ça c'est 84, passons à 83. Morning the Springs, 1983. Le lien avec ce qui, si j'ose dire, précède me paraît évident, il faudrait montrer les œuvres en comparaison, et confirme, je crois, la valeur constructive de ces tracés de l'œuvre de 84. La grande différence, c'est qu'après 83, ça c'est vraiment le dernier moment où ça ne l'est pas encore, les œuvres, j'aurais pu vous en montrer d'autres, hein, des œuvres de la fin, après ça, ça devient propre. Ça devient même étrangement propre, l'œuvre de Kooning. Changement, je souligne, qui est tout sauf anecdotique, j'en conviens, tant le style, la manière de Kooning est assimilée généralement à cette manière sale, délibérément, d'utiliser la couleur, au point que l'on peut expliquer la différence de réaction que l'on peut avoir entre ce tableau, par exemple, et le dernier, que l'on ressente un malaise ou pas, par le fait qu'ici, pour qui est habitué à l'œuvre classique de Kooning, on reconnaît. Encore qu'il s'agit de lui, on le reconnaît à ce traitement délibérément, si vous me passez l'expression, trivial de la surface. Ça, c'est un tableau de 1981. Je remonte toujours, Pirate, hein, Pirate Untitled 2. C'est un tableau fait 2 ans auparavant, qui confirme la sensation et surtout permet de percevoir cette chose qui est ce qui reste dans les derniers, c'est-à-dire que cet élément que j'ai appelé architectonique, chez de Kooning, semble être toujours présent, même quand il n'apparaît pas sur le mode du tracé net et propre de la fin. On voit dans ce tableau comment cohabitent deux modes du construire. Sur le côté droit du tableau, c'est net et plus pictural en haut, au contraire, mais c'est un pictural, finalement, dans la partie haute, qui semble procéder d'une sorte de déformation, comme balayé du linéaire, qui restera le vocabulaire unique de la fin. De fait, puisqu'il faut être extrêmement attentif aux dates, cette dialectique du propre et du sale, du linéaire et non pas tant de la couleur, parce que ligne et couleur bien sûr, mais que du griffonné, du balayé, du brossé qui vient lutter avec le net, est une affaire extrêmement ancienne dans son œuvre, et pas juste une affaire de la fin. Voici une œuvre de 1970, je fais un grand bond en arrière. C'est un fusain, c'est intéressant parce que fusain et huile sur vélin. Même le médium d'ailleurs dit cette dialectique, hein, le fusain pour tracer et l'huile pour autre chose, 70. Ce qui reste en 84 est là, déjà, totalement, mais pas seulement bien sûr, et c'est là toute l'affaire, en 1970. Je reprends le parcours antéchronologique, j'avais fait un bond en arrière, je reviens enfin, en avant ou en arrière, comme je ne sais plus comment il faut dire, avec une œuvre de 1977, qui s'appelle North Atlantic Light. Si j'avais commencé en vous montrant celle-ci, les gens qui connaissent l'œuvre de Kooning savent immédiatement que c'est un de Kooning. Alors si j'avais commencé en vous montrant juste l'œuvre de 84, si vous n'êtes pas habitué, il y a cet aspect méconnaissable. Bien. On comprend dès lors, me semble-t-il, dans ce parcours à l'envers, le lien avec des œuvres plus classiques, entre guillemets, qu'il s'agisse par exemple ici de North Atlantic Light, ou d'une œuvre de 1969, je remonte toujours en arrière, qui s'appelle Montauk One, de 69. Ici, c'est le de Kooning que l'on appelle, selon moi d'ailleurs abusivement, l'histoire de l'art est faite de catégories qu'il faut tout le temps remettre en question, expressionniste abstrait, que l'on retrouve. Mais un de Kooning dont on peut produire une lecture, puisque l'on est parti de la fin, qui, là encore, Et il me semble que quand on part du début, elle est plus difficile à produire. Je vais à Grand Jean-Jambier, bien sûr, donc c'est contestable, qui, là encore, montre comment l'œuvre procède d'un mouvement de balancier entre ces deux pulsions que j'essaie de repérer et qui, à leur façon, à la fin, opposition tranchée du blanc et du trait, demeurent présentes de manière continue, d'une certaine manière, du début à la fin, ou peut-être faut-il dire de la fin au début. Ce qui est intéressant ici, et Montauk One, le tableau que vous avez là sur l'écran, nous permet de l'appréhender, c'est à quel point cette dialectique est tout sauf un pur jeu formel, et surtout c'est tout sauf abstrait, en l'occurrence, justement, mais qu'au contraire, et on le voit dans un tableau comme celui-là déjà, me semble-t-il, parce que ça touche véritablement au corps, au corporel, à l'incarnation. Et quand je parlais du propre et du sale, ça touche aussi à ce rapport au corporel chez de Kooning. Ce qui, d'ailleurs, dans Montauk One, se traduit par l'usage de ce fameux rose très particulier qu'on retrouve dans beaucoup de tableaux de Kooning, ce fameux rose si souvent présent chez lui, qui incarne la chair, si l'on peut dire, de façon flagrante. Il y a quelque chose ici, je ne peux pas développer dans ce cadre, quelque chose sur le rapport entre le corps et ses limites, ou le corps illimité presque. Je remonte encore, et j'ai presque fini mon parcours à l'envers, encore un petit peu en arrière, jusqu'à Composition 1955. Ce serait un peu compliqué de revenir à la première image, Woman One, mais si vous l'avez en tête, c'est la plus connue, on voit très bien comment on est dans la même sphère avec ce tableau-là. Composition 55. Ce tableau de 55 est de ce point de vue-là, le chaînon manquant entre les œuvres prétendument abstraites et Woman One, dont il constitue littéralement la défiguration. Une sorte de défiguration de la défiguration, puisque Woman One est déjà en soi une sorte de processus de défiguration. C'est en fait, si on y songe en regard de ce parcours à l'envers, de ce geste de défiguration du corps que naît, dans un tableau comme cette composition de 55, cette dialectique du net et du sale, du tracé et du brossé, etc. Moment essentiel dans l'œuvre de Kooning, tout le monde en convient, mais surtout moment qui devient d'autant plus visible que l'on regarde ce trajet à partir de sa fin. Dès lors, et c'est ma conclusion provisoire, bien sûr, plus question d'utiliser les termes que j'ai utilisés au début en vous faisant passer de Woman One du début à 100 titres de 84 de la fin, plus question de parler de rupture, de diminution, d'effacement pour parler des œuvres de la fin. Du moins, quand je dis plus question, j'exagère délibérément, j'affirme, je réponds à ma question de tout à l'heure, la nécessité d'intégrer ces œuvres de la fin, celles-ci, dans le champ de l'histoire de l'art, précisément, et pas simplement du symptôme, et de les y intégrer, non pas comme une forme de singularité, comme un pur symptôme, voire comme une gêne, la question de la gêne me paraît vraiment importante, mais comme des travaux essentiels pour qui veut comprendre l'œuvre de Kooning avant son stade ultime. D'ailleurs, et ce sera ma conclusion, je vous ai montré une œuvre de 84 dont il était aisé, vu sa ténuité pathétique, de la prendre pour la dernière. Mais maintenant, je vais vous en montrer une de 88, qui est beaucoup plus foisonnante, beaucoup moins vide, beaucoup moins ténue que celle de 1984. Et c'est celle de 1984, mais peut-être que l'antéchronologie, ça marche pour tout, qui semble être l'ultime trace avant disparition de celle de 88. Pourtant, celle-ci est encore plus ultime que la précédente. Je vous remercie.
Je vais reprendre, moi, d'une autre façon un peu cette histoire, et je reprends en partant de cette phrase que de Kooning lui-même a dit dans un propos qui a été rapporté par Philippe Sellers dans un livre qu'il avait écrit sur de Kooning. On ne peut pas simplement regarder un tableau hors contexte, il faut reconstruire son histoire, il faut en parler beaucoup, c'est un morceau de la vie de l'artiste. Et c'est la vie de l'artiste, moi, qui m'intéresse là, et la vie de l'artiste regardée également, bien entendu, par un regard médical. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut avoir justement une autre lecture, la lecture brillante de Pierre me passionne particulièrement. J'ai fait exprès de choisir parmi cette photo deux tableaux, un de 55, un de 84. Et la question, parce que je suis dans cette logique de me poser toujours les questions d'une histoire clinique, qu'est-ce qui s'est passé? Je passe de avant à après, et je remonte rarement de après à avant, pour me demander qu'est-ce qui s'est passé dans ces trois décennies qui a séparé ces deux œuvres. Bien entendu, il n'est pas question de réduire l'œuvre à un symptôme, mais c'est vrai que de regarder à travers ce qu'on peut connaître de la vie de l'artiste, à travers ce qu'on peut connaître des pathologies de l'artiste, on peut se poser quelques questions et peut-être que quelque part, la médecine pourrait être avoir un regard sur l'art. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est simplement de se dire, il y a 30 ans de différence, il y a 30 ans de plus dans la vie de cet homme. Et ce qui est amusant, parce que vous voyez, Pierre l'a très bien décrit au niveau de l'évolution picturale, c'est que De Koenig lui-même, en 59, disait que quand on vieillit, les artistes, ils deviennent plus simples dans leur approche. Et je crois qu'un certain nombre d'artistes montraient bien ça. Et simple, bien entendu, c'était pas pour dire qu'il devenait plus simpliste, mais c'était de montrer un petit peu ce côté de dessin plus épuré, etc. Mais si je reviens quand même, c'est quand même à travers la vie de Koenig, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est les années 70. Donc Koenig, vous avez vu les dates de naissance et de décès, il est mort à 93 ans, en 70 il avait 70 ans à peu près, et en 70 il commence à avoir un état de santé qui s'altère avec des troubles cognitifs qui apparaissent de façon lentement progressive, avec des pertes de mémoire, avec des états de confusion, de désorientation, avec un certain nombre d'éléments dont on posait des questions de l'étiologie de ces troubles. Il s'énerve par moments, on a des descriptions où il jette les pinceaux à la figure de ses assistants. On sait que, par exemple, un grand acteur de cinéma américain est venu le rendre visite, il ne l'a même pas reconnu. Il confond sa femme et sa sœur. Il erre dans les rues de New York parce qu'il est complètement insomniaque. Et pour lutter contre son insomnie, il se met à boire. Il se met à boire, il est hospitalisé à de nombreuses reprises, et vraiment, son état s'altère beaucoup. Sa femme, qu'il avait quittée quelques décennies, je crois que c'est autour des années 50, donc 20 ans auparavant, revient s'occuper de lui. Et ça, une chose étonnante, je veux dire, dans notre jargon actuel, je dirais qu'elle a créé un programme de soins, elle a créé vraiment un plan de soins, ce que diraient nos soignants, un plan de soins, c'est-à-dire qu'elle a dit, voilà, je m'occupe de ça, et elle s'est occupée de lui, elle lui a redonné un rythme au niveau de son sommeil, elle lui a redonné un équilibre alimentaire, elle a essayé, bien entendu, de le sevrer de sa boisson, et puis elle a organisé son travail, elle a embauché une équipe d'assistants, dont deux étaient peintres, qui sont venus pour répondre aux besoins de Koenig, et puis elle a réorganisé l'ensemble de l'atelier avec la toile posée sur le chevalet, avec tout le matériel prêt à l'emploi. Et tous les murs étaient recouverts de croquis et de peintures de Koenig lui-même. À ce moment-là, il va se remettre à peindre, alors qu'il a toujours les descriptions dont on dispose, c'est qu'il a toujours des grosses altérations des fonctions cognitives. Il a même, ce qu'on dit dans notre jargon, une altération des fonctions qui entraîne une incapacité à réaliser les activités basiques de la vie quotidienne. Vous imaginez de quoi je veux parler. À tel point qu'il va être mis sur l'équivalent en France, on dira qu'il sera mis sous tutelle, et on peut imaginer que derrière ça, il y a des enjeux économiques importants. Mais il se remet à travailler, et là, chose extraordinaire, c'est qu'il se remet à travailler à partir des croquis que lui projettent ses assistants sur la toile, et il se met à redessiner à partir de colorer la toile, refaire d'autres lignes, inventer de nouvelles formes, tourner la toile dans différents sens. N'oubliez pas que c'est des grandes toiles. Et puis, il laisse la toile et il dit aux assistants, c'est terminé, le tableau est fini. Et ça, c'est quelque chose où tout le monde s'accorde, et tous les historiens de l'art et tous les comptes rendus que j'ai vus, pour dire que cette œuvre n'a aucun rapport avec l'œuvre précédente qui avait été projetée. Donc, une œuvre nouvelle, une création. Phénomène intéressant, c'est que, alors que pour les premières toiles, par exemple, que vous a présenté Pierre Watt, il mettait 2-3 ans pour les réaliser, là, il s'est mis à faire 340 toiles en 10 ans. Un peu moins que Hartung, mais le problème, c'était cette productivité qui était extraordinaire. Donc, c'était quelque chose qui a beaucoup préoccupé, après le monde artistique, vous imaginez, ça a préoccupé également le monde médical, et il y a eu pas mal de papiers dans des revues de haut niveau, le Lancet en 96, il y a eu des papiers dans les Archives of Neurology, il y a eu des papiers dans différents journaux, où là, contrairement à M. Binet, le nom de maladie d'Alzheimer était évoqué avec beaucoup moins de pudeur pour pouvoir annoncer le problème de Koenig, mais tout en s'interrogeant sur le diagnostic et tout en s'interrogeant sur le problème de la créativité et de la mémoire. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est celui-là pour nous. Comment, et c'est la question qu'on a ensemble, créativité et mémoire, comment débattre là-dessus? Parce que bon, on peut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'à partir de ce qu'on connaît, la mémoire, on sait que la mémoire de travail, c'est quelque chose d'essentiel pour la planification et le raisonnement. Vous savez, c'est ces zones préfrontales. On sait que l'attention est également essentielle parce que c'est, sinon, si on a un trouble d'attention, on a un trouble, on a une perte du fil de la pensée et de l'intention créatrice. On sait que la mémoire sémantique, c'est aussi quelque chose d'essentiel parce que c'est la représentation interne du monde, c'est l'image de la réalité. Et lorsqu'on a des troubles à ce niveau-là, eh bien, on sait bien que ça va entraîner des troubles au niveau de la création. On sait également qu'il y a des troubles dits exécutifs, c'est-à-dire de planification, de pouvoir reprendre un peu les choses, sans quoi on tombe, quand on a ces troubles-là, dans la stéréotypie, dans les persévérations, voire les simples copies. On sait également qu'il y a des troubles visiopraxiques et que ça entraîne des déstructurations du dessin. On sait également, et là c'est un point sur lequel je voudrais un petit peu insister, c'est qu'on a une mémoire procédurale, c'est celle qui est une sorte de mémoire acquise dans laquelle une activité automatique. Et celle-là, même dans beaucoup de pathologies neurodégénératives, elle est peu altérée. Et on pourrait se poser des questions par rapport à ce dont on a besoin dans le cerveau, si je peux dire, pour pouvoir créer. Et ce problème de la mémoire procédurale, bien entendu, c'est provocateur, parce que je ne veux pas dire que l'activité créatrice ne se résume pas à une simple activité motrice. Mais n'oubliez pas, et ça c'est le regard du médecin, ce sont des peintres qui travaillent avec des grands gestes, avec des grands mouvements sur des grandes surfaces. Donc voilà un petit peu les éléments que l'on a. Par contre, on sait que la perception des couleurs, ça, elle est peu altérée, en particulier dans ce que j'ai dit là, dans la maladie d'Alzheimer. On sait que l'orientation, la représentation de la taille d'un objet, la perspective sont altérées, précocement par contre. Alors, en dehors de la peinture abstraite, même si Pierre n'aime pas trop ce mot-là à propos de Koenig, juste j'aimerais dire deux petits mots, si vous me permettez. C'est un d'un peintre américain dont on a beaucoup parlé, parce que là encore, depuis une dizaine d'années, puisqu'il y avait eu un papier dans le Lancet, parce qu'il avait une maladie d'Alzheimer, c'était un autoportraitiste américain de qualité, je pense, je ne sais pas Pierre, mais c'est pas très connu, mais qui était devenu célèbre au moins parce que la publication de Lancet avait repris son évolution où il continuait à faire son autoportrait et on a en face l'évolution vraiment clinique et paraclinique de sa maladie et vous voyez comment les choses évoluent dans ce cadre d'une maladie d'Alzheimer. On est loin d'une évolution à la de Koenig. Le deuxième élément, c'est que, ça c'est un petit test qu'on fait très souvent, que tous les gens qui font un peu d'évaluation en consultation font, mais pour montrer un peu la déstructuration par les troubles visiopraxiques, c'est un petit test de la montre, hein, et on voit bien comment, avec l'altération cognitive, on déstructure complètement la représentation de la montre. Et troisième élément, c'est un autre peintre, qui est aussi américain, et qui était un peintre, alors on aime bien parce que ça se répète, il faisait des séries de ponts de Rialto. Et donc voilà deux choses qui me semblent assez intéressantes. Ça, le premier en noir et blanc, c'est un Rialto fait alors qu'il n'était pas malade. Et le deuxième, c'est un Rialto qui est fait alors qu'il est malade. Alors qu'est-ce qu'on observe là-dedans? C'est que, à la limite, moi j'ai envie de dire, je préfère le deuxième au premier, mais il y a quelque part quelque chose au niveau de la naïveté, au niveau de justement des troubles au niveau de la perspective, des évolutions au niveau de la couleur, qui font penser qu'il y a des évolutions, mais qui peut-être ne sont pas en rapport avec la créativité. Alors si on continue notre débat, parce que je ne sais pas comment on va continuer notre débat, c'est que c'est vrai que pour moi, il y a quelque part un mystère de Koenig. Il y a un mystère de Koenig. Un mystère de Koenig, c'est comment il a pu produire une telle créativité avec, et on a entendu Pierre Vatt nous expliquer comment, quand on reprend l'ensemble de l'œuvre de façon En remontant, si vous voulez, dans le temps, on voit bien toute la créativité artistique. Comment c'est possible, avec ce qu'on connaît, nous, des troubles des facultés cognitives, des diminutions de capacité d'attention, des capacités visio-constructives, comment tout cela peut s'expliquer? Ça reste pour moi un mystère. Je crois qu'on ne sait peut-être pas le diagnostic. Personne n'est formel sur le diagnostic exact du trouble qu'a eu de Koenig. Mais je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une maladie neurodégénérative derrière ça. L'alcool a pu jouer un rôle, la dépression a pu jouer également un rôle. Un certain nombre d'éléments vasculaires peut-être, on peut retrouver des éléments comme on retrouve chez Hartung. Mais j'ai envie de finir, moi, sur le titre même du papier du Lancet de 96. C'était où il se posait la question de la créativité et de la démence et du pouvoir de guérison de l'art. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter Joël Ancry et Pierre Vatte sur les dernières toiles de Willem de Koenig, les précédait dans cette intervention croisée Odile Burlereau pour aborder les techniques de Hans Hartung qui lui permettaient ainsi de pallier son handicap physique jusqu'au dernier souffle. L'œuvre ultime, c'était le thème de la journée du livre de l'Académie nationale de médecine. Canal Académie, partenaire de l'événement, retransmet les meilleurs moments. Retrouvez ainsi sur notre site les interventions consacrées aux dernières œuvres de Nicolas Poussin, du Titien, de Matisse et de Bartok, ainsi que la dernière représentation du malade imaginaire par Molière avant sa mort. Retrouvez tous ces sujets dans la médiathèque de Canal Académie. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.